Vous connaissez l'origine, tiens Olivier, tu connais l'origine du nom RMC, toi ?
Radio Monte Carlo.
Ouais, Radio Monte Carlo. Il y a peut-être une autre origine. Ah. On va en parler avec le monsieur nom d'entreprise, l'une des plus grandes références en la matière. Thales, Vinci, Wanadoo, Clio, Renault. Tiens, il y a Thomson qui veut changer de nom. Les noms d'entreprise, d'où viennent-ils ? Et puis tiens, et aussi le PS. Est-ce que le PS doit changer de nom ? Est-ce que ça lui ferait du bien ? 10h40, RMC.
RMC, Bourdin & Co, Guillaume Caour.
Il est 10h42, 32-16 et rmc.fr, vos témoignages sur l'actu. Ce matin, notre invité Marcel Botton, bonjour. Marcel Botton, vous êtes avec un micro, ça marchera mieux. Voilà. Voilà. Vous êtes économiste, linguiste et président exécutif de Nomen. Nomen, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la création de noms, c'est ça? De noms d'entreprises, d'activités, de marques?
De noms d'entreprises et de noms de produits également.
Ouais, de noms de produits. Dans les noms récents, vous avez quoi sur votre tableau de chasse?
Oh ben, une des plus connues des Parisiens, en tout cas, c'est Vélib.
Ah, Vélib, c'est vous?
Oui, Vélib, c'est nous, absolument.
Alors, pourquoi Vélib?
Bah, écoutez, ce nom est assez simple, évident. Hein, c'est Vélo Liberté. Il a pris tout de suite. Alors, pourquoi il a pris tout de suite? C'est toujours difficile de savoir. Hein, donc, il marche. Mais c'est très lié au produit, évidemment. Dans le jour où le produit a bien marché, la marque est associée.
À l'origine, c'était Vélove à Lyon. Pour
exact,
les 1. C'est la même entreprise, d'ailleurs, qui a fait
c'est
Deco.
Oui, absolument, oui.
Pourquoi ils n'ont pas gardé Vélove
Parce que les noms appartiennent aux municipalités, n'appartiennent pas à Deco, enfin, ou n'appartiennent qu'en partie à Deco.
Donc. Et Vélib, ça vous a pris beaucoup de temps ou pas pour le trouver?
Il a fallu...
Parce que quand on y pense comme ça, vous dites Vélo, Liberté, on se dit, bah oui. Et ils ont gagné des milliers d'euros. En...
Oui, enfin, il fallait mettre tout le monde d'accord. Il y avait plusieurs possibilités.
Il y avait quoi d'autre? Vous vous souvenez?
Vivélo, par exemple, qui me revient.
Ah oui, Vivélo.
C'était pas mal aussi, finalement. C'était un des finalistes.
Ouais, ouais. C'est quoi l'intérêt, alors? Parce que là, on parle des entreprises. On va prendre le cas d'un groupe qui fait parler de lui régulièrement. C'est le groupe que Alain Juppé voulait vendre à 1 euro symbolique, enfin, 1 franc symbolique à l'époque. Mm-hmm. C'est le groupe Thomson. Qui, depuis, a eu à nouveau des difficultés économiques, là, ces derniers temps, renégociation de la dette et tout le toutim. Bref, ça allait pas du tout. Et là, le patron dit, bah voilà, groupe Thomson, c'est devenu un fardeau, ce nom. Il va falloir qu'on en change. Mm-hmm. Vous partagez ce point de vue, on arrive à un tel niveau de difficulté, il faut changer de nom?
Oui. Je suis pas fanatique des changements de nom. Je pense que un nom, c'est pas jetable. C'est-à-dire qu'en principe, quand on a un nom, on le garde, même si on a quelques difficultés à un moment donné.
Ouais,
on essaye. Quand un automobiliste, un fabricant d'automobile a des difficultés avec son véhicule, avec ses véhicules, il fait des rappels, mais il change pas de nom, en principe. Mais jusqu'à un certain point. Là, pour Thomson, effectivement, je pense que, on a déjà une expérience, d'ailleurs, de changement de nom de Thomson, puisque nous avions rebaptisé une partie de Thomson, qui s'appelait à l'époque Thomson CSF, en Thalès.
Bon. Ah oui, c'est vous qui, la branche armement.
La branche, défense.
Branche défense, comme on dit. Et alors, pourquoi Thalès? Ça évoque quoi, Thalès?
Thalès, c'est pour les Français, en tout cas, parce que ça varie suivant les pays. Pour les Français, ça évoquait à la fois un scientifique et un commerçant, parce que c'était un grand commerçant, Thalès. Et à part ça, ça a commencé par TH comme Thomson, donc c'était pas mal. On se rattachait quand même aux racines.
Bon. C'est quoi le métier d'inventeur de noms? C'est quoi? Linguiste, marketeur,
c'est justement le mélange qui est intéressant. C'est créatif, parce qu'il faut trouver des noms. Bon. C'est marketing, parce qu'il faut que les noms plaisent.
Ouais.
C'est juriste, parce qu'il faut que les noms soient libres.
Ouais.
C'est linguiste, parce qu'il faut que les noms puissent être évoqués dans les différentes langues.
Ah oui.
C'est ce mélange. Alors, je dis pas que chacun de mes collaborateurs fait tout ça à la fois, mais j'ai des collaborateurs dans chacun de ces domaines, et c'est ce mélange qui moi, personnellement, m'intéresse et m'enrichit. C'est-à-dire que on est au carrefour de plusieurs compétences.
Donc c'est quoi? C'est une réunion, des réunions pour faire émerger quelque chose? Chacun propose librement? C'est ça le...
Non, les créatifs proposent, mais après ils se confrontent aux gens de marketing qui font des tests, aux linguistes qui disent, mais attendez, ce nom-là, dans tel pays, c'est épouvantable.
Vous avez des exemples de noms épouvantables?
Oui, on en trouve pas mal sur Internet, rien que sur les noms de voitures, par exemple.
Ah ouais.
Je sais pas quoi, Parero, par exemple, en espagnol, ça veut dire branleur. Bon. Alors ils ont été obligés de changer de nom en Espagne, et donc ils l'ont rebaptisé Montero. C'est Mitsubishi. Donc voilà. Mais je cite cet exemple, il y en a des dizaines. Donc il faut effectivement, quand on trouve un nom maintenant, même Vélib, par exemple, on se dit, bon, ça concerne les Parisiens, bon. Sauf qu'à Paris, il y a 40 millions ou 50 millions d'étrangers chaque année. Donc il n'est pas question d'avoir un nom qui soit une insulte en japonais, en n'importe quoi. Donc il faut vérifier à chaque fois.
Donc pour chaque nom, vous vérifiez dans chaque langue?
On peut pas vérifier dans toutes les langues, il y en a 3000 dans le monde, mais on vérifie
pour
un constructeur automobile, on travaille pour les constructeurs automobiles, c'est du genre 80-90 pays quand même. Hein. Donc dans 80-90 pays, on vérifie le nom pour voir si ça ne va pas poser
problème. Et à chaque fois, vous réussissez à trouver un nom qui correspond à tous les pays ou bien vous êtes obligé de trouver plusieurs noms ?
Ah non, pour trouver un nom, on en produit plusieurs milliers en général. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on on part de plusieurs milliers qui vont être réduits à quelques centaines. On va en présenter une centaine aux clients et de test et en contrôle, on va arriver à un.
La Logan, c'est chez vous aussi, c'est votre entreprise ?
Oui, absolument.
Alors Logan, c'est venu comment ?
Alors Logan, ça ne veut rien dire.
Ah bon ?
Alors on peut, si on cherche, on verra que c'est le point culminant du Canada, par exemple, mais c'est pas ça qui nous a guidé.
Si je cherche dans une encyclopédie, Logan, je trouve quelque chose ou pas ?
Oui, vous trouvez le point culminant
d'accord.
du Canada. Oui.
D'accord.
Mais ce qui nous intéressait surtout, c'était un nom dont les sonorités soient adaptées. C'est le cas d'ailleurs de Twingo aussi chez Renault. Twingo, ça ne veut rien dire. Mais c'est un nom qui colle bien au produit. On voit bien que Twingo et la petite voiture, c'est sympa. Bon.
Ouais.
Logan, ça allait bien. Ça avait une certaine rondeur, mais pas trop. C'était un peu rassurant. Et c'était universellement acceptable. Et c'est pour ça que Renault...
Et il est venu comment, le Logan ? Parce que point culminant du Canada, faut que ça sorte quand même.
C'est pas comme ça qu'on l'a trouvé. C'est en mélangeant des syllabes qu'on l'a trouvé.
Ah
c'est après qu'on s'est aperçu que c'est le point
culminant. En mélangeant des syllabes, vous avez dit... Tiens,
on choisit des sonorités. Il faut que ces sonorités soient à peu près universelles, qu'elles soient adaptées au produit, parce que les sons correspondent à certains types de produits. Je veux dire, Twingo et Logan, on voit bien que c'est pas le même genre de voiture. On n'aurait pas pu les permuter, par exemple.
Oui, c'est ça. Maintenant, ça paraît évident que non, mais sur le coup.
Non, on a une certaine sensibilité.
Vous ne pensez pas qu'il y a, dans les années 90, la Twingo, on aurait pu l'appeler Logan ?
Ah non, pas du tout. Twingo, on voit bien qu'il y a un côté...
On fait abstraction de Twingo. On n'y aurait pas pensé à Twingo.
Oui.
On aurait pensé à Logan.
Oui.
Vous auriez dit non, c'est pas adapté.
Non, Logan, c'est un nom plutôt rassurant, plutôt solide. Ça évoque plus une voiture familiale qu'une voiture dessinée, vous voyez.
Si vous le dites, c'est vous le professionnel. C'est vous le professionnel. Remarquez, pour les deux, c'est en tout cas peut-être un des critères aussi de la réussite. Pour Logan, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme nom, vous vous souvenez ? Qu'est-ce qui a pu émerger sur lesquels vous avez hésité ?
Il y avait,
le carré de 10 à la fin, non, vous vous souvenez pas ?
Je ne me souviens plus maintenant. Mais,
vous avez aussi travaillé, on va rester dans l'automobile, on va parler du concurrent. Yaris, c'est chez vous aussi, c'est ça ?
Oui, absolument.
Et la petite Toyota, c'est une voiture uniquement européenne ou elle se vend partout dans le monde, celle-là ?
La voiture est vendue partout dans le monde, mais elle a été conçue pour l'Europe, effectivement.
Et le nom est un nom international ou c'est le nom européen ou français ?
Non, le nom est international. La preuve en est d'ailleurs que c'est même pas notre bureau de Paris qui l'a créé, mais c'est notre bureau d'Allemagne qui a créé ce nom.
D'accord.
Bon, ça s'est trouvé comme ça alors que...
Et ça évoque quoi, Yaris, alors ?
Ce sont des sonorités. Il y a pas. Alors, on peut trouver du sens. C'est l'année. Bon, on peut dire que c'est la voiture de l'année, par exemple. Mais tout ça, c'est des rationalisations inventées après.
Ouais.
Ce qui est vrai, c'est qu'on voulait des sons qui évoquent une voiture qui aille avec la ligne de la voiture. Cette voiture est assez classique, finalement, la Yaris.
Ouais.
Bon. Et c'était une voiture qui pouvait être familiale, donc des noms qui glissait bien, qui coulait bien, et on est arrivé à ce nom-là.
Au début d'Internet, il y a une marque de France Télécom qui s'appelait Wanadoo, qui depuis a disparu pour devenir Orange, parce que France Télécom en fait a voulu avoir le même nom pour toutes ses activités, c'est ça l'idée ?
C'est ça, alors Wanadoo existe toujours, mais enfin il est...
Ah ça existe toujours ?
Oui, il y a toujours des gens dont l'adresse mail est...
Ah oui c'est ça, mais on ne peut plus s'abonner à Wanadoo.
On ne peut plus s'abonner à Wanadoo aujourd'hui.
Wanadoo, ça évoquait quoi ?
Alors, c'était une anecdote amusante, puisque c'était nous qui avions travaillé, c'était moi qui m'étais occupé de ce dossier. Et en fait, il y avait un sens caché. C'était une marque cryptique. Le sens caché, c'est « I wanna do », ce que je veux faire, qui était l'équivalent de ce qu'employaient les Américains pour « I wanna be ». Les wannabes aux États-Unis, c'était ceux qui voulaient être et qui n'étaient pas encore. Les geeks, comme on dirait aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Bon, ou les nerds. Mais à l'époque, on travaillait, ça s'appelait pas France Télécom, ça s'appelait DGT, et Direction Générale des Télécommunications, et pas question de proposer un nom anglais, c'était pas possible. Donc il fallait pas le dire, parce que comme c'était l'État qui décidait, l'État n'allait pas choisir un nom anglais pour un service français. Donc on a décidé de ne pas le dire. Bon. Et donc on a dit, ça s'appelle Wanadoo, pourquoi Wanadoo ? Pour rien. Bon. Et c'est passé d'étape en étape, c'est arrivé au ministre, personne n'a rien vu, et ça a été choisi. Et c'est quelques temps plus tard qu'à l'Assemblée nationale, il y a un député qui quand même a réagi, et puis qui a posé une question orale, question écrite, je ne sais plus, qui a dit « mais pourquoi choisir un nom anglais ?» Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'en fait, ça avait un sens pour les anglo-saxons.
Et Wanadoo, ensuite, ça a disparu. Vous l'avez regretté ou pas ? Vous pensez que c'est une marque aujourd'hui qui existerait encore s'il n'y avait pas eu cette stratégie d'entreprise de tout appeler Orange ? Vous pensez que c'est une marque qui aurait pu perdurer dans le temps ?
Alors, c'est une belle marque, elle avait eu un prix d'ailleurs. Il y a eu deux marques qui ont eu un prix, c'est Wanadoo et Vélib'. Elle a eu un prix, donc elle plaisait beaucoup. C'est un grand succès. Maintenant, Orange était aussi une très belle marque, qui notamment a une caractéristique, c'est une couleur, c'est bien. C'est une couleur qui s'écrit et se dit de la même façon en anglais et en français. Il y en a très peu. Il y a beige, il y a orange, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon. Et il y a violet aussi. Donc voilà, ça c'est une belle marque et il a fallu choisir et France Télécom a choisi Orange et ils ont très bien fait.
Si je vous dis que ma première s'appelle Mégane et que la deuxième s'appelle Logan et que je déteste Renault parce qu'ils ont donné des noms de voitures à mes filles.
Vous êtes bien renseigné en fait.
C'est certainement pas les seuls.
Non, c'est pas les seuls. On a reçu des appels de gens qui avaient appelé leur fille Logan après.
C'est pénible, franchement.
Pour eux, c'est dur. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Quand la marque Danino a été créée, il y avait un écrivain qui s'appelait...
La marque quoi ?
Danino, pardon, Danone. Ah oui. A été créée, il y avait un écrivain qui s'appelait Pierre Danino, qui a rouspété aussi, qui a dit... Ouais. Seulement, comment voulez-vous créer une marque aujourd'hui, alors que les prénoms sont libres, sans utiliser le nom ou le prénom de quelqu'un ? Malheureusement, on tombe à chaque fois sur des gens qui existent.
Et ça, c'est de plus en plus le cas, parce que les prénoms sont libres et ce n'était pas le cas avant.
Ça accroît les difficultés, absolument.
Et donc, vous recevez des courriers ou les entreprises reçoivent des lettres ?
On reçoit des courriers, on reçoit des coups de téléphone. Moi, je me suis expliqué avec un papa d'une jeune Logan. Je lui ai dit que j'étais la vraie, que j'y pouvais rien, mais qui lui-même n'avait pas tellement de recours, effectivement. Et puis bon, on en est resté là, mais c'est vrai que...
Il n'y a aucun recours possible. Je ne peux pas porter plainte en disant vous êtes en train de donner à un objet le prénom d'un enfant. Il n'y a rien à faire.
Si le prénom était extrêmement original, si. Mais sur un prénom de deux syllabes comme ça, non, vous ne pouvez rien faire.
Dernier mot, pour parler politique. Mmh. Est-ce que pour un parti politique, parti socialiste, ça aurait du sens, sans changer le contenu du parti, de la stratégie, rien du tout, changer le nom du parti, est-ce que ça peut être un atout ?
Ah ben, je me suis exprimé là-dessus. Je pense que le PS doit changer de nom. Ça, je l'ai dit et écrit. À partir d'une certaine confusion dans la perception de la marque, et cette marque est devenue un peu confuse maintenant, et puis qu'est-ce qui reste comme parti socialiste dans le monde, à part la Corée du Nord et Cuba? Bon, ça n'a plus beaucoup de sens, ce nom. Donc il faut chercher autre chose. Moi, je suis convaincu qu'il faut chercher autre chose. Alors, évidemment, ça crée des violentes réactions.
Et ça serait quoi, pour vous, un nom adéquat pour un parti de gauche comme celui-ci?
On peut imaginer beaucoup de choses. On peut imaginer de garder les lettres et de faire le Parti Social, par exemple, ou on peut chercher une couleur, par exemple, pourquoi pas. Ça existe dans d'autres pays. Il y a des partis, même chez nous, il y a les Verts. Bon.
Ouais.
Donc pourquoi...
Le Parti de la Rose.
Alors, le Parti de la Rose, j'hésiterais pour des raisons que chacun pourra imaginer, mais enfin, on peut trouver des genres de rouge, ça peut être le Parti Magenta, par exemple, des genres de rouge ou de rose qui seraient adaptés, oui.
Merci d'être venu chez nous ce matin sur RMC, Marcel Botton, avec votre entreprise, vous êtes président exécutif de Nomen, vous êtes également économiste et linguiste. Merci beaucoup.
Merci
et bonne continuation. 10h50.